François Chevalier, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes stratégiste à la banque Leonardo. Bien sûr, parler avec vous des marchés financiers, des perspectives pour cette année. Alors, on pourrait dire qu'après une fin d'année assez difficile, où tout le monde broyait du noir, les investisseurs comme les particuliers, on a en tout cas sur les marchés peut-être été surpris, en tout cas en tant qu'observateur, avec presque cette bonne humeur de début d'année. Qu'est-ce qui a changé entre, on va dire, le 31 décembre 2011 et les quelques jours du mois de janvier, là. Tout a changé, notre environnement a changé?
Non, l'environnement n'a pas changé, mais je crois que les gens prennent conscience de différentes choses. D'abord, le retour de la stabilité politique en Europe, je pense à la Grèce, à l'Espagne, mais aussi à l'Italie, à la Belgique, est en train de porter ses fruits. Ça a été précédé d'une vraie détente sur le marché obligataire européen, à l'exception de la Grèce, mais il y a eu une vraie détente que les gens n'ont pas vue. Et puis, ça c'est le premier point, le retour de la stabilité politique dans un certain nombre de pays. Le deuxième point extrêmement important, c'est la politique monétaire de la BCE. En fait, on a réclamé à cor et à cri un assouplissement quantitatif. Il est arrivé. Il est arrivé notamment le 21 décembre avec le jumbo prêt de la BCE de 500 milliards d'euros. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on l'a minimisé parce que la BCE prête aux banques et pas aux États. Et on voulait qu'elle prête aux États. Et on doutait que les banques prêtent ensuite, prêtent aux États. En réalité, elles prêtent bien, mais à court terme. Tout ça contribue à une forte détente, et sachant qu'on a une vision relativement erronée, des effets d'une politique budgétaire restrictive.
Alors c'est effectivement un des points importants. Alors donc effectivement l'environnement, les investisseurs sont un peu plus positifs en ce début d'année, mais on parlait effectivement de la Grèce, des dettes souveraines, ça reste quand même le sujet principal du moment. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand le FMI avance pour tel pays, les investisseurs sont rassurés, et dès que ça bloque à un endroit ou dès qu'il y a une rumeur à un endroit, à nouveau les marchés prennent peur.
Oui, les marchés prennent peur, mais cela dit, il y a tout de même une détente depuis décembre, avec tout ce que je viens de dire, la BCE, la stabilité politique. Il y a une vraie détente sur le marché obligataire qui concerne la France. Le spread OAT-Bund était remonté jusqu'à presque 200 points de base. Il oscille autour de 130 points de base, mais les taux espagnols sont revenus finalement à un niveau normal, les taux longs de 5,5, et les taux belges sont revenus aux alentours de 4,25. Il n'y a que l'Italie, sur l'Italie, on n'observe pas de détente pour le moment sur les taux longs, ou de détente significative et intéressante, les taux longs italiens étant à 6,5, mais en revanche, il y a une vraie détente sur les échéances courtes. Donc vous voyez, il y a tout de même une confiance qui est capturée sur le marché obligataire, c'est le fruit de tout ce qui se passe en ce moment dans la zone euro. Mais il y a aussi un autre point qu'on va pouvoir vérifier, enfin, qu'on vérifie déjà en réalité, c'est que, vous savez, une politique budgétaire restrictive, ça ne conduit pas forcément à une récession. Les gens avaient en tête cette idée-là. Et c'est une idée erronée. La première chose que dit le modèle keynésien en économie ouverte, c'est que ça favorise une dépréciation du change, parce qu'on a besoin de moins de capitaux. Donc les capitaux ne vont pas affluer, ils vont même peut-être sortir. Dépréciation du change, et qui finalement va doper les exportations et minimiser les importations. Donc ça, et finalement, on est en train de le vivre, parce qu'on observe que l'euro se déprécie.
Enfin, on pourrait dire.
Enfin. Voilà. Enfin, mais ce n'est pas indifférent, le contexte. Alors, je crains que ce soit pas forcément lié au caractère restrictif des politiques budgétaires. Je pense que c'est lié. Mais là, on a toute chance de se féliciter, tout lieu de se féliciter du policy mix européen. Je pense que c'est lié, en fait, à la politique monétaire. C'est que, finalement, ce quantitative easing qu'on réclamait, il est là. Et lorsqu'on regarde avec les États-Unis le principal effet de l'assouplissement quantitatif aux États-Unis, ça a tout de même été la baisse du dollar qu'on a observé à l'automne 2010. Alors qu'en Europe, les difficultés s'accumulaient en Europe. Donc là, on a cette baisse de l'euro, et c'est favorable en fait pour la croissance. Et cette baisse de l'euro, elle n'est pas liée à l'augmentation du risque européen. Là encore, c'était un risque de contresens. On observe, si vous voulez, pendant l'été, il y avait une corrélation étroite entre les actifs risqués, entre l'euro et le CAC. Et c'est vrai que lorsque le risque européen montait, on observait en même temps une baisse de l'euro, une baisse du CAC. Et là, les deux se sont désolidarisés. Si l'euro est aux alentours de 1,28, pour ce niveau-là, et si la corrélation avait perduré, le CAC devrait être autour de 2005. Lorsque vous avez un CAC, comme c'est le cas en ce moment, qui est supérieur à 3002, vous devriez avoir un euro-dollar qui est de l'ordre de 1,39, 1,40.
Alors, on se pose quand même des questions effectivement sur ces plans de rigueur, c'est un peu les inquiétudes, c'est-à-dire que, en gros, le principal scénario pour la zone euro était de dire, avec tous les plans de rigueur qui sont installés, ceux qui sont encore à venir, finalement, la croissance va ralentir. Et quand on a vu récemment cette dégradation de la note française, on lisait bien dans le communiqué d'agence de notation cette question de la croissance dans la zone euro, et en particulier en France.
Oui. Alors, par rapport à le, non, on tourne toujours autour du rapport entre une politique budgétaire restrictive et la croissance. Donc, il y a un premier amortisseur qui est effectivement la baisse du change. Il y en a d'autres. Hein. Et en particulier, on peut imaginer que les Européens aient été, par exemple, ennuyés de voir cette dérive des finances publiques et ils ont épargné. C'est vrai des Français. Hein. Et il est tout à fait possible que rassurés sur l'évolution des dépenses publiques par les politiques budgétaires qui sont mises en place, à ce moment-là, ils vont désépargner. Ils vont maintenir leur consommation et désépargner. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le taux d'épargne français est un sommet historique puisqu'il est à 17,3% du revenu disponible. Donc moi, je crois beaucoup à cette désépargne des ménages européens et qui devrait amortir le choc récessionniste de la politique budgétaire. Et puis, il faut constater aussi que toute l'Europe ne subit pas les événements de la même façon. L'Allemagne, qui a été très rigoureuse pendant des années, peut aujourd'hui, va connaître une augmentation des salaires de 4%,
Qui fait rêver
qui fait rêver, y compris les
beaucoup d'Européens.
Américains. Parce que si vous regardez aux États-Unis, en fait, et compte tenu du niveau très élevé du chômage, les salaires américains n'augmentent que de 1%. Donc 4% en Allemagne, ça veut dire une consommation allemande qui sera forte, et l'Allemagne, c'est tout de même le premier partenaire commercial de tous les pays européens.
Un mot sur le triple A perdu par la France qui fait pchit finalement quand on voit que la France, l'État, se refinance mieux aujourd'hui qu'il ne s'est refinancé quand il était noté triple A. Comment l'investisseur réagit à ça? Qu'est-ce qui explique
Oh
finalement?
ben c'est extrêmement simple. Le processus a déjà été pris en compte par les marchés. En fait, vous savez, avant l'été, le spread au AT Bund, il plafonnait à 40 points de base. Et actuellement, il est aux alentours de 130 points de base. C'est-à-dire, si on devait se refinancer au même coût que les Allemands, en fait, on se financerait à des taux inférieurs à 2%, alors que nous nous finançons à un petit peu plus de 3%. Donc, ça a déjà été pris en compte par. La nouvelle avait déjà été prise en compte par les marchés. J'ajouterai une deuxième chose. Là, on est un peu victime, mais ce n'est pas le seul reproche qu'on peut faire à la France. Mais vous savez que les statistiques, les données sur le budget, sont données en year to date. Autrement dit, on donne les 11 premiers mois de l'année, enfin on donne les déficits depuis le début de l'année. Et puis on va comparer par rapport aux 11 premiers mois de l'année précédente. Il y a un phénomène de retard dans tout ça. Si vous isolez les chiffres, si vous les corrigez les variations saisonnières, si vous regardez quelle est la tendance du déficit public français, vous apercevez en fait qu'on est sur des niveaux à l'heure actuelle de l'ordre de 67 milliards d'euros, c'est-à-dire un déficit qui est de l'ordre de 3,3%. Donc vous voyez, ce n'est pas si catastrophique que ça. En revanche, la France, il y a tout de même des choses à rectifier et qui justifient tout à fait que les agences nous aient dégradés. C'est, on s'aperçoit, par exemple, que lorsque l'activité va mieux, à la différence de l'Allemagne, nous ne réduisons pas les déficits. C'est-à-dire, le principe français est de distribuer les cagnottes fiscales. Lorsqu'il y a des plus-values fiscales, on les distribue. En Allemagne, on les épargne. Et puis, la deuxième chose qui est beaucoup plus problématique pour la France, c'est les déficits jumeaux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre déficit public, même s'il est moins important, est totalement financé par l'étranger. Ce n'est pas le cas des Allemands. Les Allemands ont un déficit public qui est à peu près du même ordre que nous, légèrement inférieur au nôtre, mais ils s'autofinancent. Ils ont un excédent courant de 5% du PIB.
Tous les challenges à venir. Alors pour l'investisseur, du côté de peut-être ce premier semestre, qu'est-ce que font les investisseurs? Parce qu'on sent bien quand même le risque action aujourd'hui. Peu de gens sont capables de le prendre, compte tenu de ce qui s'est passé, on va dire, du scénario noir du deuxième semestre 2011. Il y en a, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, justement, dans ces périodes-là?
Ben justement, il faut se méfier. Je sais que la tendance est souvent d'extrapoler. Et la bourse s'est très mal comportée l'an dernier, surtout au second semestre. Je crois qu'elle a anticipé hein, ce qui va se passer sur le plan macroéconomique. C'est vrai que sur le plan macroéconomique, même si on rechute pas, même si on retombe pas en récession, la croissance va être très faible. Donc je crois que la bourse a anticipé. Et je crois qu'actuellement, la bourse, c'est plus 2012, son horizon, c'est 2013. Et donc c'est pour ça, je pense qu'au niveau des actions, c'est pas mal de revenir sur les actions. Elles sont faiblement valorisées, je crois qu'elles ont anticipé le pire. Et on voit bien qu'au niveau des problèmes, au niveau de la croissance, le choc ne sera pas aussi dur que de ce qu'on imaginait. Et au niveau européen, les choses s'arrangent. Je dis, il reste plus en dehors des pays périphérique, hein, c'est-à-dire en dehors de la Grèce, du Portugal et de l'Irlande. Mais encore, là, il y a une différence. On peut même regarder l'Irlande, par exemple. Il y a quelques mois, les taux étaient identiques avec le Portugal. Aujourd'hui, les taux irlandais, les taux longs irlandais sont passés en dessous de 8. Donc je crois que la crise en Europe est en train de s'arranger.
Voilà, un mot d'optimisme, en tout cas en ce début d'année. On suivra ça, bien sûr, avec vous. Merci François Chevalier d'avoir été avec nous. Rappelez, vous êtes donc stratégiste à la banque Leonardo.